réplique les enjeux de la bioéthique avec Sylvana Gazinski et Frédéric Worms. Dans un rapport de juin 2017, le Comité consultatif national d'éthique s'était prononcé pour l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Cet avis a été entendu. L'Assemblée nationale vient de voter en première lecture une loi relative à la bioéthique dont le premier article est ainsi libellé. L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d'un homme et d'une femme, ou de deux femmes, ou toute femme non mariée, ont accès à l'assistance médicale à la procréation. Cet accès ne peut faire l'objet d'aucune différence de traitement, notamment au regard du statut matrimonial ou de l'orientation sexuelle des demandeurs. Fin de citation. Les dés semblent donc jetés. Mais je ne crois pas pour autant que la discussion soit close. Avec cette loi, la médecine sort du cadre thérapeutique et la famille se métamorphose. Ce double changement de paradigme mérite qu'on s'y arrête. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec deux philosophes. Frédéric Worms, qui vient de faire paraître, pour un humanisme vital, l'être sur la vie, la mort et le moment présent, chez Odile Jacob, et Sylvana Gazinski, qui publie chez Gallimard, dans la collection Tract, l'homme désincarné du corps charnel au corps fabriqué. Et je m'adresse d'abord à vous, Frédéric Worms, puisque vous êtes membre du Comité national consultatif d'éthique. En quoi le fait pour la médecine de ne plus soigner seulement la stérilité, mais de satisfaire le désir de chaque femme qui souhaite avoir un enfant, est-il conforme à l'éthique ? Frédéric Worms.
Alors, d'abord, merci beaucoup de votre invitation. Je suis très heureux de cette occasion de discussion avec vous et avec Sylvana Gazinski, qui a beaucoup écrit et discuté sur ces questions. Ce que je voudrais faire pour répondre à votre question, c'est distinguer les choses quand même. Il y a l'article de loi qui commence avec cette remarque sur la parentalité, qui est une chose. Il y a le contexte philosophique général. Et puis, il y a le rôle précis du comité d'éthique, qui n'a pas un rôle législatif, qui n'a pas écrit cet article de loi, qui a écrit un avis sur un point très précis, qui est plutôt sur l'aspect négatif possible des techniques médicales elles-mêmes. Et au fond, le rôle du comité d'éthique, c'était de réfléchir sur la légitimité, non pas d'une ouverture et de son contexte en général, mais plutôt de l'interdiction antérieure concernant certaines techniques précises. Sur la PMA, par les femmes, effectivement, la PMA était déjà pratiquée pour des femmes dans des couples hétérosexuels. La question précise, c'était est-ce que la technique d'insémination avec donneur, par exemple, pose-t-elle un problème éthique comme tel ? C'est cette question-là que le comité d'éthique a répondu. Il n'a pas répondu sur une philosophie de la famille ou une philosophie de la médecine. Mais est-ce que cette technique pose problème pour des femmes, selon leurs diverses situations, en effet, de demandeuses ? Et c'est à cette question précise, sur cette technique précise, qu'elle a répondu, il n'y a pas de problème. Pour une autre technique, dont on parlera, j'imagine, beaucoup aussi, qui est celle de la gestation pour autrui, où la femme n'est pas la demandeuse, mais et répond par son corps, en effet, à des demandes d'autres personnes, le comité d'éthique a recommandé que l'interdiction soit maintenue. Donc il s'agit de savoir si une interdiction, qui est un geste politique grave, on n'interdit que des choses qui portent un tort objectif à des citoyens, à des sujets, y compris les enfants, évidemment. Et il s'agissait pour le comité de ce rôle consultatif sur cette question négative-là, et non pas de l'article de loi que vous avez cité et qui est important aussi.
D'accord, Frédéric Worms, peut-être. Mais entre 2003 et 2017, le comité a changé de philosophie. Parce qu'en 2003, se posait la même question, et voici la réponse du CCNE, rapportée récemment par Olivier Rey dans un entretien pour le Figaro. L'assistance médicale à la procréation a toujours été destinée à résoudre un problème de stérilité d'origine médicale et non à venir en aide à une préférence sexuelle ou à un choix de vie sexuelle. L'ouverture de la PMA à l'homoparentalité ou aux personnes seules ouvrirait de fait ce recours à toute personne qui en exprimerait le désir et constituerait peut-être alors un excès de l'intérêt individuel sur l'intérêt collectif. La médecine serait simplement convoquée pour satisfaire un droit individuel à l'enfant. Donc, entre 2003 et 2017, il s'est passé quelque chose.
Non, ce qui s'est passé, c'est que jusqu'ici, au fond, pour l'autorisation de la PMA, on passait en effet par cet argument, qui d'ailleurs est un peu compliqué quand on y regarde bien, du traitement de la stérilité. En fait, c'est effectivement une compensation dans des couples hétérosexuels où la stérilité peut arriver. L'avantage de la PMA, le secours qu'elle apporte à ces couples, c'est de permettre la fécondation. Au fond, il y a toujours eu deux aspects. Il y a la question de la technique elle-même. Est-ce qu'elle est légitime? Et le comité a toujours dit qu'elle était légitime. C'est-à-dire qu'elle ne faisait violence, elle ne faisait pas violence à la femme, elle ne faisait pas violence en tant que telle. L'insémination artificielle, par exemple. Et donc, en effet, la question du contexte qui a permis, pendant très longtemps, en effet, d'autoriser un certain encadrement de cette technique, il faut maintenir un encadrement de cette technique, était appuyée sur l'idée de traitement médical, ce qui, d'ailleurs, au fond, est un peu compliqué, puisqu'on ne guérit pas l'infertilité, qui elle-même n'est pas une pathologie mortelle. Et c'est, au fond, la question du désir d'enfant des couples hétérosexuels est une question morale autant que médicale. Et d'ailleurs, il faut réfléchir sur l'importance de la technique de PMA comme telle. Déjà, pour un couple hétérosexuel, ça n'était pas simple d'admettre cette technique. Personne ne dit que les répercussions anthropologiques, sont simples. La question, c'est est-ce que ce cadre qui s'appuyait sur une distinction qui n'est pas toujours si facile à faire entre le médical et le sociétal, en effet, entre des problèmes de pathologie corporelle et des demandes sociétales, est-ce que c'est le seul critère pour le comité d'éthique? Je crois vraiment, c'est pas du tout une extension indéfinie. La question, c'est de se centrer sur son rôle, qui est un comité consultatif national d'éthique sur les sciences de la vie et du vivant. Est-ce que les techniques, comme telles, sont dommageables aux droits et aux vies des citoyens?
Oui, d'emblée, ma position est effectivement très, très éloignée de la vôtre. Et le premier point que je soulignerais, c'est que je suis en désaccord total avec votre usage du mot technique. Nous ne sommes pas uniquement dans une classification ou un examen des techniques. En effet, mais oui.
Je parle de l'avis qui devait être rendu sur les techniques.
Je n'ai pas dit
que ça se réduisait à ça, mais c'était le rôle précis du comité à ce moment-là.
Si certaines innovations, notamment en matière de procréation, mais aussi ailleurs, peuvent poser des problèmes éthiques, c'est parce qu'on est sorti d'une pratique médicale où l'éthique médicale ou la déontologie se passait entre le médecin et le patient. Elle existe toujours et elle a toujours sa nécessité. Nous sommes entrés dans une époque où un certain nombre de techniques, comme par exemple la transfusion sanguine, la transplantation d'organes ou la procréation médicalement assistée, comme on dit, impliquent des tiers. Ces tiers sont concernés de deux façons. Soit on a besoin d'eux comme, c'est le terme qu'on utilise au fond, ressources biologiques, du sang, des organes, des cellules, des gamètes, quand ce n'est pas des ventres maternels et la vie des femmes pendant 9 mois, pour contribuer à ces techniques. C'est tout à fait inadmissible de parler ça simplement comme une technique. C'est une pratique sociale et pour recueillir ces substances biologiques, il faut faire appel tantôt à des dons, conditions du don, tantôt plus généralement au marché. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le marché mondial de la procréation, de la transplantation. Vous avez un énorme marché et on ne peut pas comprendre les origines de la demande aujourd'hui, demande d'enfants fabriqués avec des substances empruntées à d'autres. On ne peut pas comprendre la flambée de cette demande si on ne considère pas l'ensemble du monde dans lequel cette demande est satisfaite par le marché. On peut acheter tout partout, des cellules près d'ici, des ventres pas si loin. Tout ça est complètement mondialisé. On achète des mères porteuses qui vont accoucher ailleurs pour que l'enfant ait cette identité. Ce marché fait que chaque citoyen, regardant son intérêt personnel ou son désir personnel, se dit « mais tout ça est disponible, le corps est disponible, le corps humain est disponible, pourquoi ne le serait-il pas pour nous ?» Je ferme cette parenthèse, mais je pense que c'est très important de considérer ce point. D'autre part, je ne suis pas d'accord non plus sur la manière dont on présente aujourd'hui la PMA dite « pour tous ». Je souris d'ailleurs en pensant à Michéa qui a parlé du pourtoussisme, mot qui est pas très joli mais qui est assez bien trouvé, qui nous fait croire qu'à un moment donné, une technique est réservée aux hétérosexuels, je cite, pour les opposer, c'est tout à fait artificiel, aux homosexuels et dire il y a inégalité, il y a discrimination. Naturellement, il n'y a ni inégalité ni discrimination, puisque, vous l'avez rappelé, aujourd'hui, les techniques médicales et les pratiques médicales de procréation sont réservées, non pas, ce ne sont pas des thérapeutiques, vous avez raison, mais c'est réservé à des couples qui souffrent d'infertilité. C'est l'infertilité médicalement constatée, etc. Donc, c'est la souffrance de l'infertilité. Or, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir qu'il ne peut pas y avoir de problème pathologique d'infertilité pour une personne seule ou pour deux couples de même sexe. C'est tout simplement un non-sens. Donc, c'est ce non-sens qui est assez inacceptable d'un point de vue rationnel. Donc, cette loi bioéthique, et puis je vais m'arrêter ensuite, cette loi dite « ouverture » entre guillemets de la PMA pour toutes n'a rien à voir, en fait, avec la bioéthique puisque ça n'a plus rien à voir avec la santé. En revanche, ça a tout à voir avec la demande, au fond, d'une espèce de production, entre guillemets, d'enfants qu'il faut assurer et dont on va demander à la médecine de l'assurer, alors que ce n'est évidemment pas son rôle. Et je pense que cette loi, on l'appelle bioéthique, pour dissimuler ce qu'elle recèle en réalité de révolution dans l'état civil et dans la filiation. Et donc, juste encore un petit point, la question pour moi de la PMA dite pour tous, c'est au fond une question essentielle, c'est qu'est-ce qu'on institue ? Plutôt, qu'est-ce qu'on désinstitue, on devrait dire. Parce qu'en fait, on désinstitue quelque chose d'archaïque, d'universel, qui est au fond le fait que, face à la réalité de la procréation toujours bisexuée et bilatérale, la filiation a toujours été calquée en quelque sorte par sa structure sur ce modèle et donc bilatérale de lignée, une lignée paternelle, une lignée maternelle. En construisant une double maternité à égalité, en quelque sorte, pour deux femmes, on détruit complètement cette structure de la parenté pour construire une autre structure dans laquelle la différence sexuelle est neutralisée. Avec beaucoup d'effets, j'y reviendrai.
Frédéric Worms, quelle est votre réponse
Merci,
sur cette désinstitution?
Alors, il y avait beaucoup de choses dans cette analyse, certaines que je partage, certaines d'autres, et l'important, à mon avis, c'est justement de faire des distinctions. Ce sur quoi je voudrais répondre d'abord, c'est sur le mot technique. L'enjeu technique tel que je l'ai employé ne se référait pas à un instrument technique ou à une technique au sens vraiment de l'instrument et du geste comme tel, mais à l'ensemble de ce qu'il implique. Et par exemple, si en effet le comité d'éthique, moi je suis entièrement aussi à titre personnel d'accord là-dessus, maintient la recommandation d'interdire la GPA, c'est parce que ce geste technique implique des relations entre des tiers, entre des humains, et en effet, ce que nous appelons une des disjonctions, et donc l'intervention de tiers dans un processus qui, quand il n'y a pas besoin de passer par là, effectivement, est en principe un processus entre deux personnes, même si c'est souvent déjà un peu compliqué. Mais c'est vrai que ce terme de technique peut tromper. Il ne s'agit pas d'une technicisation de la parentalité ou de l'enfantement ou des relations morales. Il s'agit au contraire d'envisager la dimension morale des gestes techniques eux-mêmes dans les actes qu'ils impliquent. Et c'est vrai que l'assistance médicale à la procréation, quelle qu'elle soit, implique des acteurs très complexes dans lesquels il y a souvent un tiers, le donneur de gamètes, en tout cas le médecin, la société aussi dans la question du remboursement, évidemment l'anticipation de l'enfant qui appartient dans tout projet parental, évidemment il y a une place pour l'enfant, il y a des cadres juridiques pour permettre à l'enfant d'être heureux, il y a un soutien médical et évidemment qu'il y a aussi un cadre à construire pour l'enfant qui n'est pas un tiers mais entre les parents mais qui est un acteur majeur de cette relation. Donc je voudrais juste qu'il n'y ait pas de malentendu. sur le mot technique. Il ne s'agit pas pour moi de techniciser la procréation, mais au contraire de moraliser, de penser moralement le geste technique lui-même, mais de ne pas le confondre avec les autres enjeux, c'est-à-dire les enjeux de société.
Mais alors,
ne peuvent pas tous se mélanger avec l'enjeu moral de la technique comme telle.
Parmi ces enjeux de société, il y a en effet une nouvelle définition de la famille, une neutralisation de la différence des sexes, et par exemple, Clémentine Autain dit que c'est une loi de progrès après des siècles d'histoire patriarcale. Et en effet, on peut penser que l'ordre patriarcal, comme on dit, en prend un coup, qu'il est difficile de continuer à le dénoncer, puisque le père devient désormais facultatif dans la procréation, dans la filiation, dans la famille. Et bientôt, à l'état civil, on pourra inscrire deux mères. Et pensez-vous, comme Clémentine Autain, Frédéric Worms, que ce soit un véritable progrès ou non?
Moi, je crois qu'il faut vraiment distinguer les sujets et les rôles, et que déjà, si on pense la dimension éthique et la reconnaissance juridique de l'utilisation de certaines, malheureusement, on doit bien dire techniques, en tout cas de certains modes de procréation, on donne un statut à des rôles qu'il faut de toute façon reconnaître d'une manière ou d'une autre. Même quand il y a un père et une mère qui font une demande de procréation assistée, quel va être le statut du donneur, quel va être le statut du géniteur? Il faut absolument le distinguer du père. Et c'est le premier rôle très très important. Et dans l'avis du comité, qui se retrouve d'ailleurs dans la loi, il est très clair que, par exemple, le géniteur ne doit jamais être appelé le père. Le père est en effet une fonction juridique reconnue dans le domaine de la filiation.
Mais quand il n'y en a plus.
Mais alors, quand il n'y en a plus, quand un couple de femmes demandent en effet la procréation, on se pose la question de la filiation et des conséquences juridiques. C'est très très important. Et je ne minimise absolument pas ce sujet. D'ailleurs, il faut aussi absolument que dans la reconnaissance sociale de ces procréations, qui est à mon avis une consolidation des relations familiales en général, dans un monde où les familles se décomposent et se recomposent, il faut que les cadres soient solides. Quand il n'y en a plus, il faut qu'il reste une place pour le masculin, une place pour le géniteur, et bien entendu une place pour la relation parentale comme telle. Moi, je ne suis pas en train de juger les je ne suis pas c'est un autre rôle que le comité d'éthique, en tout cas d'examiner les cadres juridiques de la filiation. En tout cas, moi, je ne crois pas que ce soit le critère pour juger de l'interdiction ou pas de ces techniques de relation à l'enfant, d'engendrement comme tel. D'ailleurs, c'est au contraire pour les clarifier qu'il faut distinguer les rôles et que c'est le rôle de la loi de le faire.
Sylviane Agacinski.
Oui, moi je suis plus sensible en fait au rapport entre l'éthique et le droit, c'est-à-dire, là moi je suis très aristotélicienne et ricœur, hein, et ricœurienne si on peut dire. Je pense que l'éthique, comme disait Aristote, est avant tout nécessaire au législateur, parce que c'est le législateur qui va éclairer par l'éthique de ce qui est juste et injuste. Est-ce qu'il est juste de fabriquer artificiellement ou de créer artificiellement des méthodes de procréation pour lesquelles le père disparaît et des structures de filiation pour lesquelles le père est absolument superflu? Est-ce que c'est juste pour l'enfant de faire cette création? Il y a plusieurs réponses. Je laisse de côté, bien qu'elle soit très importante, la réponse de certains psychanalystes. Je pense à Pierre Lévy-Soussan, par exemple, qui nous dit tout de même, réfléchissons à cette question. Nous créons pour l'enfant avec deux mères. Une mère, c'est encore différent, il faudrait voir. Avec une filiation à l'égard de deux mères, nous créons une filiation invraisemblable. Ça, c'était jamais vu, ça. On n'avait jamais créé de filiation invraisemblable. Ça joue un rôle. L'idée que ce père est superflu crée une inégalité de droit. Ce père est supprimé, pardon. Crée une inégalité de droit entre les enfants qui sont nés, y compris d'un don de sperme dans un couple mixte. On se fiche de la sexualité, c'est la mixité qui compte, c'est le sexe, c'est l'homme et la femme. Y compris à l'égard de cet enfant qui, lui, de toute façon, a une filiation paternelle et maternelle. Or, l'enfant qui va être né de deux femmes en fonction d'une volonté déclarée devant notaire ou devant un juge, celui-là n'aura aucun droit, aucune possibilité, par exemple, comme d'autres, d'entreprendre une recherche en paternité. Ça lui sera interdit. Il pourra ensuite se plaindre d'avoir tout de même été traité différent des autres enfants.
Est-ce que je peux...
Enfin, juste un mot sur la différence sexuelle et sa neutralisation. On peut observer aussi, en réfléchissant, que tous les enfants naissent d'un géniteur, d'une génitrice, et de manière filiale d'un père et d'une mère. Et que cette structure de la filiation contribue aussi à lui montrer, à lui témoigner du fait que lui-même n'est pas à la fois un garçon et une fille, un homme, une femme, et qu'on ne peut pas être en même temps un père et une mère. Il y a là une alternative, il y a là une contrainte, en quelque sorte rationnelle, qui contribue à lui signifier sa finitude. Je ne suis pas tout. Aucun individu n'est tout. Et c'est très important parce que c'est une des fonctions de la construction de l'altérité, du rapport à l'autre, passe aussi par cette reconnaissance de l'altérité sexuelle.
Frédéric Worms, alors, j'aurais une question à poser.
Évidemment des points, là encore, hein, c'est pas tout ou rien, sur lesquels je suis profondément d'accord. Par exemple, il est évident que l'engendrement doit vraiment rester vraisemblable. Il est évident qu'il faut absolument que le récit ne soit pas une fiction. C'était déjà quelque chose de très important pour la PMA, pour les couples hétérosexuels. Je ne parle même pas de l'anonymat du donneur, mais du secret du mode de procréation. C'est très bien qu'il y a beaucoup de pathologies qui ont été induites par le fait que les parents n'osaient pas dire à leurs enfants qu'ils avaient recouru à un donneur. C'était pas si facile à admettre. Et il est évident pour les couples de femmes, contrairement à ce que dit Sibian Agacinski, c'est juste le point sur lequel je serais vraiment en désaccord. Le récit du geste va être obligatoire. Il est évident, et les femmes, je l'espère, en tout cas pour la plupart, sauf celles qui sont dans le déni, et il en existe, et il existe toujours des abus et des pathologies. Mais si deux femmes veulent expliquer à leurs enfants qu'elles n'ont pas eu besoin de géniteur ou de donneur masculin, ce sera en effet invraisemblable et même impossible. Donc le récit, la vérité sur la procréation sera au contraire plus obligatoire encore et plus forte que pour les couples hétérosexuels qui ont beaucoup vécu dans le secret, dans le sous-le-tapis, dans la fiction, qui a fait beaucoup de dégâts. Et donc je pense qu'il faut faire confiance aux femmes. Moi je pense qu'il y a un sujet qui est sous-estimé. Moi je ne suis pas du tout dans... Et le comité n'a pas du tout sexualisé son avis. Il n'y a pas de prise de position sur l'hétéro, l'homosexualité en général. Par contre, je suis certain qu'il y a une minorisation du choix et de la responsabilité féminine dans ces sujets. Et que autant le père, j'en suis un, est quelque chose de très très important dans la structuration des familles, autant le rôle du géniteur, les rôles sociaux, la vérité sur les rôles sociaux est absolument fondamentale, autant il y a quand même dans cette surestimation de la fonction masculine, avec parfois le déni aussi des violences symboliques qu'elle peut avoir, je pense qu'il y a plutôt vraiment un risque de minorisation de la responsabilité des femmes et du rôle qu'elles vont avoir. D'abord, elles ne vont pas recourir à ces techniques pour le plaisir, et puis aussi du rôle d'éducation qu'elles assument. Et le rôle de la mère me semble aussi important que celui du père, par ailleurs.
Bien sûr, mais... c'est le congé donné au père qui peut poser un problème. Alors vous parlez de violences symboliques, peut-être allez-vous un peu loin. Il y a toutes sortes de violences possibles dans les familles et
ça, c'est certain,
et des deux côtés. Hein.
Moi je pense que ce qui définit la famille, c'est la possibilité des drames familiaux entre frères, aussi le fratricide, et c'est ce qui fait de la fraternité une valeur politique.
Et s'il y a des infanticides,
ce que j'appelle la violation d'ailleurs dans le livre dont vous parliez tout à l'heure.
Enfin, et s'il y a des infanticides encore, ils sont plus commis par des femmes que par des hommes. Donc voilà, c'était pour la violence symbolique. Mais là, je voudrais m'arrêter aussi à la question du rapport du droit et du juste, et même à la définition de l'éthique pour votre comité. Parce que là, je fais référence à un grand entretien donné par le président du comité national consultatif d'éthique, Jean-François Delfracy. Il dit que l'un des objectifs de ce comité est d'arriver à un équilibre entre les avancées de la science et les avancées de la société. Et il y a un équilibre à trouver entre les unes et les autres. Et alors, les journalistes qui l'interrogent disent « Mais enfin, le comité national d'éthique a complètement changé de philosophie. » Et il répond ceci, Jean-François Delfracy, « On ne peut pas inscrire telle décision du CCNE dans le marbre pour le restant de nos jours. La notion de valeur est relative. Je ne sais pas ce qu'est le bien et le mal. Vous avez de la chance si vous le savez vous-même. » Et à un autre moment, il dit « L'éthique n'est pas la morale. Est-ce que ça ne conduit pas ce comité à être la chambre d'enregistrement des demande sociétale et des avancées technologiques. C'est une sorte de comité de bienveillance pour les unes et pour les autres, dès lors que le lien entre l'éthique et la morale est en quelque sorte distendu, sinon rompu, ce qui amène à s'interroger sur la définition même de l'éthique. Frédéric Worms.
Comme le montre notre discussion, il y a des débats tout à fait légitimes entre des éthiques dans la société. Et certains sujets, même issus des sciences de la vie, à la naissance, mais aussi du côté de la fin de vie et de la mort, nous forcent à expliciter nos éthiques et donc nos désaccords éthiques qui vont chercher au plus profond de nous-mêmes. Et je crois que ce que Jean-François Delfraissy voulait dire, c'est que la fonction du comité d'éthique, sans relativisme, en définissant des principes absolus et des lignes de crête majeures, c'est de concilier le débat entre éthique au pluriel, toute légitime, sans tomber dans l'arbitraire et le relativisme, mais de les concilier. Je prends un tout petit bout sur la fin de vie. Comme vous le savez, il y a une éthique du soin qui consiste à empêcher la mort. Et d'un autre côté, il y a le respect de la liberté et des choix. Tout le monde se réclame d'ailleurs de la dignité de la vie ou la dignité de la liberté. Il faut arbitrer et la loi le fait difficilement, tragiquement. Le rôle du comité d'éthique, encore une fois, c'est de montrer où interviennent les grands enjeux entre les éthiques. Il n'y a pas forcément pour le comité d'éthique à dire quelle est la bonne parentalité, quelles sont les bonnes valeurs en général. Je crois que si Jean-François Delfraissy, président du comité d'éthique, avait dit à Valeurs Actuelles, telles sont mes valeurs, je veux les imposer à la société, ça aurait été encore pire. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut d'un côté concilier les éthiques, mais surtout, encore une fois, sur certains enjeux vitaux, issus des techniques aussi médicales, mais pas techniques, mais issus des techniques, il faut arbitrer entre les principes médicaux, les limites absolues, qui sont des violences faites par la technique à certains êtres humains. Je pense encore une fois que la GPA, et c'est pour ça qu'il restera, à mon avis, une frontière absolue entre les deux, contrairement à ce que disent certains. Il y a de l'absolu et il y a des arbitrages. Et le clonage, par exemple, est un interdit universel. La peine de mort en est un. Il y a à savoir si, et la preuve que l'AMP n'en était pas un, c'est que c'était autorisé pour les femmes dans les couples hétérosexuels. Donc on entre plutôt dans les représentations de la famille que dans l'absolu, l'interdit mortel, vital, issus de la médecine, entre nous.
Sylvie Nagasinski.
On ne peut pas dire que l'éthique résulte d'une confrontation entre les morales individuelles. Pas du tout, ça n'a jamais été ça. C'est pour ça que je citais tout à l'heure Aristote, mais je vais vous citer quelqu'un qui est proche d'Aristote, qui est Ricoeur, et qui rappelle que l'éthique, c'est un souci, c'est une exigence. C'est une exigence qui a au moins trois pôles. Le souci de soi, c'est la recherche du bonheur, de son bien, etc. Le souci d'autrui, c'est une morale classique qui peut être religieuse ou pas, faire le bien d'autrui, la bonne intention, etc. Et puis surtout, le souci des institutions justes.
Absolument.
On revient à Aristote. Le souci de l'institution juste n'a rien à voir avec la moralité subjective. L'institution juste consiste à s'entendre sur un certain nombre de... Alors, certains disent valeurs, on peut dire principes, on peut dire valeurs intrinsèques. Et à cet égard, notre culture, notre civilisation, on ne part pas de zéro. On ne parle pas de zéro pour discuter tous ensemble, pour dire « Ah bon, toi, qu'est-ce que tu crois comme valeur ?» Et moi, pas du tout. On a une histoire extrêmement importante sur la question, justement, du juste et de l'injuste et de l'éthique, notamment avec les concepts de dignité. Alors ça, c'est plus récent. Équité, justice, dignité, c'est plus récent. Mais si vous voulez, là, notre histoire est particulièrement brûlante. D'où ça nous vient la question du fait... Enfin, la valeur intrinsèque de la personne humaine, ça nous vient de plusieurs horizons. Ça vient de l'horizon chrétien, ça vient de l'horizon religieux, ça vient de l'horizon philosophique. Mais plus près de nous, ça vient aussi d'éthiques qui ont fondé le droit et qui ont permis deux choses essentiellement. La première, je dirais, c'est l'abolition de l'esclavage, qui consiste à dire le corps d'une personne, quelle qu'elle soit, ne peut pas être approprié par qui que ce soit. Et aujourd'hui, nous allons dire le corps d'une personne ne peut pas être approprié ni en tout, ni en morceaux. La deuxième chose, c'est quand même le procès des médecins de Nuremberg, c'est le code de Nuremberg. Et pourquoi ? Pas seulement pour la question du consentement à l'expérimentation par des sujets humains, c'est parce que à ce moment-là, on a pris conscience du fait que l'être humain pouvait être, par la recherche médicale, voire par des traitements médicaux, pouvait être traité comme une chose. C'est le fait que des êtres humains, leur corps, aient été traités de matériel humain. Là, on parle de quelque chose de très précis. On ne va pas discuter pour savoir si on n'est pas d'accord ou pas. Sinon, on va dire, comme certains le disent, bah oui, la GPA peut être éthique. Alors pourquoi pas un esclavage éthique aussi, s'il est bien encadré? Non, il y a des points butoirs, il y a des points fondamentaux en matière d'éthique qu'on ne peut pas contourner. Et c'est le cas pour la GPA.
Oui, alors sur ce point d'ailleurs, vous êtes d'accord. Je ne sais pas si tout le monde au Comité Consultatif National d'Éthique est d'accord, mais là, vous l'avez dit, Frédéric Hussort, de manière très claire, c'est un butoir, c'est un absolu. Nous ne voulons pas de gestation pour autrui. On invoquera l'argument d'égalité, l'argument de non-discrimination. Déjà, certains le font pour aller plus loin, mais moi je vois un autre problème.
Est-ce que vous me permettez à la fin juste de répondre d'un mot, parce que je suis entièrement, il y a un autre point d'accord profond avec ce que vient de dire Sylviane Agacinski et à travers la référence à Paul Ricoeur. D'ailleurs, je me souviens très bien que la première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était pour les 90 ans de Ricoeur chez une amie commune.
Ah oui, c'est
et
vrai.
Il était là en personne et
chez
c'était
Myriam Revaud-Allonne.
Et quand Ricoeur disait que l'éthique consiste à vivre bien dans des institutions justes avec et pour les autres, les institutions justes, le comité d'éthique, pardon de le dire, y correspond parfaitement. Pourquoi ? Parce qu'elle consiste. Ricoeur s'inspirait de John Rawls, théoricien de la justice, qui définissait aussi dans le deuxième de ses grands livres l'idée du consensus entre doctrines raisonnables. Consensus politique entre doctrines raisonnables. Et c'est exactement ce que fait le comité d'éthique qui cherche à exclure des deux côtés le déraisonnable. Ne nous trompons pas, nous sommes d'accord ici à cet âme parce que nous sommes d'accord d'abord pour discuter. Et nous sommes d'accord pour éliminer le déraisonnable des deux côtés. Mais je crois que c'est fondamental et que la justice est la valeur suprême. Et pour Ricoeur l'était, vivre bien, dans des institutions justes, avec et pour les autres. C'est-à-dire concilier justement les choix éthiques dans des institutions justes. Et le comité d'éthique, pardon, en est un maillon, pas le seul.
Oui, mais alors, Paul Ricoeur était un ami et un lecteur très attentif d'Emmanuel Lévinas.
Absolument.
Et il serait d'accord avec Lévinas pour dire que l'éthique oblige. L'éthique lit. Or, comme l'écrit Bruno Chawad dans un livre très intéressant qui s'appelle « L'homme trans », le sujet moderne, lui, c'est son mouvement propre, se délie. Il lève une à une toutes les obligations au nom, justement, de l'égalité et de l'émancipation. C'est d'ailleurs ce que disait le comité d'éthique en 2003. Il avait peur que s'institue un droit à l'enfant. Il mettait en garde contre une extension indéfinie des droits individuels. Mais précisément, l'éthique n'est-elle pas en péril quand le langage des droits supplante peu à peu celui de la loi ? Et on le voit quand même, parce que ce qui se dit, c'est pourquoi les femmes seules, elles-mêmes, alors qu'on sait les immenses difficultés des familles monoparentales, on l'a vu même avec le mouvement des Gilets jaunes, pourquoi les femmes seules, elles-mêmes, n'auraient-elles pas droit à un enfant? Donc si vous voulez, le désir d'enfant tend à devenir, grâce aux nouvelles technologies, un droit à l'enfant avalisé par des comités d'éthique, puisque précisément, le langage des droits dans l'éthique elle-même a supprimé, ou a effacé, a remplacé celui de l'obligation.
Moi, je ne le crois pas du tout, Alain Finkielkraut. Je pense qu'au contraire, si je fais partie de ce comité, c'est parce qu'il reste en France, et heureusement, un rôle fondamental attribué à la loi contre le droit et contre les dérives de la demande de droit. Je pense qu'au contraire, tout le travail de ce comité qui se situe, moi je le situerais pour ma part, entre la science et la loi. Il n'est pas législatif. Mais il n'est pas non plus un comité d'experts qui dit tout ce qui est scientifique est faisable et qui, voilà, il est au contraire, au vu des changements majeurs, et je ne vais pas noyer le poisson ici dans la génomique ou l'intelligence artificielle ou les autres sauts absolument qualitatifs profonds qui vont intervenir des sciences. Je ne veux pas noyer le poisson, je veux dire de la PMA, parce que ce serait un peu se défausser. Mais sur les techniques de procréation et aussi d'ailleurs de fin de vie, le rôle du comité d'éthique, c'est au contraire d'orienter un travail législatif qui va absolument contre les demandes juridiques individuelles, qui vise à fournir un cadre commun et à tenir compte de tous les acteurs et de tous les sujets. Et je crois vraiment que, vraiment, on ne peut absolument pas aujourd'hui fragiliser la loi. Moi, je crois que le souci majeur aujourd'hui si on prend un peu de recul, c'est l'individualisme, mais c'est aussi la contestation des règles démocratiques, la contestation de la régulation, la contestation de la loi, aussi par ceux qui la transgressent du point de vue des ce qu'on appelle abusivement d'ailleurs le populisme, de ceux qui considèrent que la démocratie, la loi, ça ne sert à rien. Au fond, nous sommes aujourd'hui dans la nécessité de renforcer la procédure pour arriver à la loi, et c'est là que nous jouons un rôle central, pas seulement dans son contenu, mais dans sa forme. Et de ce point de vue-là, moi je suis en effet absolument du côté de la loi républicaine.
Vous voulez répondre, c'est Kazinski, j'aurais aussi une question à vous poser.
Oui, non, moi aussi, je crois simplement, je ne crois pas une seconde qu'il n'y ait pas un lien direct entre ce qu'on est en train de faire avec la PMA pour toutes les femmes et ce qu'on prévoit déjà de faire. Alain Touraine, qui est une des chevilles ouvrières.
Jean-Louis Touraine, le rapporteur de la République, il dit lui-même
de la GPA. C'est une technique de procréation comme une autre. On y viendra. Il annonce déjà qu'on y viendra.
Ah, il est très favorable.
Et pourquoi il est très favorable? Et pourquoi on y viendra? Parce que la structure de la parenté qu'on est en train de construire pour deux femmes est exactement la même que celle que la Cour de Californie a admise pour un couple qui était commanditaire d'un enfant à travers une mère porteuse. C'est la même chose, c'est-à-dire la notion de parent intentionnel, de parent volontaire. N'importe quel couple, homme-femme, femme-femme, homme-homme, etc., doit pouvoir obtenir un enfant par les moyens ad hoc, à condition qu'ils aient la volonté de devenir parent. La notion de parent intentionnel, qu'on a repris béatement sans réfléchir, ne veut rien dire d'autre que les clients d'une mère porteuse, et c'est ce que disent aussi les avocats quand ils parlent crûment. Les parents intentionnels sont les parents commanditaires d'un enfant. Et nous, on reprend ça et on construit la filiation sur la notion de parenté intentionnelle ou volontaire. Il est évident que cette structure servira demain à expliquer comment on va créer la parenté pour des clients d'une mère porteuse.
Alors, ce sera sans doute sans Frédéric Worms qui continuera à s'y opposer. Ah. Mais je vois que notre débat, en effet, est très courtois. Le désaccord s'exprime et en même temps, on recherche en commun la vérité. Mais je pense que cette situation a quelque chose d'exceptionnel. Frédéric Worms, vous soulignez les dangers du populisme. Moi, j'en vois d'autres, notamment dans le monde médiatique et le monde intellectuel, c'est le politiquement correct. C'est même le fanatisme engendré par la certitude d'accompagner avec l'émancipation le mouvement de l'histoire. Et je voudrais, Sylviana Kazinski, que vous nous disiez un mot de la mésaventure qui vient de vous arriver à l'Université de Bordeaux. Vous deviez tenir une conférence sur l'homme à l'âge de la reproductibilité technique, donc c'était un sujet très large, et cette conférence, d'après ce que je crois savoir, a été annulée par l'université en raison des menaces d'un certain nombre de groupes qui avaient dit qu'ils allaient manifester, protester, chahuter, si jamais vous vous présentiez à cette conférence. Sylviana Kazinski.
Pour moi, c'est un épisode désagréable, mais c'est pas évidemment ça qui est en cause.
C'est révélateur surtout.
C'est très révélateur, c'est-à-dire c'est révélateur d'un climat extrêmement pesant qui, dans beaucoup de cas, conduit à subir des pressions, des intimidations, et qui conduit, dans beaucoup de cas, à l'autocensure. Vous voyez, j'ai reçu, et des amis aussi, un grand nombre de témoignages de personnes du monde médiatique, universitaire, de la recherche, qui disent, mais moi je me pose des questions aussi, tout ça je trouve ça un petit peu, on marche sur la tête tout de même, on est à la fois dans la confusion des sexes, etc. Mais je ne peux rien dire, parce que je risque d'être ostracisée, et c'est un climat extrêmement pesant. Et les menaces qui pesaient sur la conférence que je devais donner ne sont un cas particulier. Je crois savoir que l'un des groupes était militant pour la PMA pour les transgenres. Bon, l'université a été très embarrassée parce que elle avait peur de ce qui se passerait, donc elle m'a proposé de changer de formule, de transformer en un débat. Mais moi, j'allais pas là-bas pour discuter avec des gens excités qui voulaient m'insulter. Cela dit, je discuterais très bien avec des gens qui sont sur ces positions. Je pourrais le faire, sauf que c'était pas le projet de cette conférence. C'est aussi à chacun, des intellectuels, des journalistes, d'autres, de réfléchir sur cette situation et de dire leur propre opinion.
Et c'est pour ça que je vous ai demandé d'en parler un peu, non pas pour vous plaindre, mais parce que il faut réfléchir ensemble à ce qui est en train de se passer, à cette dérive qui gagne les universités. Le fanatisme ne peut pas s'installer au cœur des lieux de recherche et d'enseignement. Sinon,
et ça crée de l'autocensure, c'est ça qui est terrible.
Donc, et l'autocensure. Frédéric Worms.
Oui, merci. Je voudrais dire un mot. Moi, j'ai des responsabilités dans une institution d'enseignement supérieur. Je voudrais dire mon indignation totale vis-à-vis de ce qui s'est passé et ma solidarité, et même plus, vis-à-vis de cet empêchement au débat et de cette intrusion et en effet de ce militantisme qui peut tourner au fanatisme antidémocratique. Et je pense que c'est extrêmement grave sur tous les sujets et sur ce sujet-là aussi. Et il ne faut pas sous-estimer d'ailleurs le rôle pacificateur qu'a eu le grand débat d'éthique, pas national sur d'autres sujets, mais qu'a eu les institutions médiatrices, qu'a eu le comité d'éthique. Donc ne fragilisons pas les institutions médiatrices. Et là, je pense que c'est notre responsabilité commune et je vous en serais très reconnaissant. Je voudrais ajouter un autre mot, mais sur un autre plan, vraiment, je ne mélange pas du tout les gens. Je pense qu'il y a un petit risque rhétorique dans le petit tract de Sylvia Nagasinski et dans votre propos, c'est de la généralisation qui peut conduire au durcissement. Très souvent, moi, c'est un trope, comme ça, un tour rhétorique que j'ai repéré à plusieurs reprises et qui vient de m'être objecté, donc je peux pas ne pas résister un petit peu. Vous dites « certains disent que » et aussitôt on entend « tous pensent que ». Certains disent qu'il faut tout généraliser en Californie, donc forcément, tous ceux qui sont pas contre l'ouverture de la PMA aux couples de femmes pensent la même chose que Jean-Louis Touraine ou que les lobbies les plus extrêmes. Non, moi je ne vous assimile pas.
Ah bah c'est pas n'importe qui, Jean-Louis Touraine, pardon.
Non mais si, c'est quelqu'un parmi d'autres.
Vous avez lu ça, le rapport sur la mission d'information.
Oui, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec lui.
Non, mais c'est
et ça
ne
veut pas
clair.
Dire que la loi va le suivre. Donc il y a un passage du « indique à tous pensent que » qui, moi, me gêne. Et ce processus de généralisation est un peu embêtant aussi. Par exemple, vous voyez, les parents intentionnels. Moi, c'est une notion compliquée. Moi, c'est pas une notion que je défendrais à titre personnel du tout. Mm-hmm. En revanche, les pères qui, aujourd'hui, sont reconnus comme pères d'enfants pour lesquels leur sperme n'y est pour rien, dans des couples hétérosexuels, seraient certainement heurtés d'être dénigrés dans leur position de parents reconnus par la loi comme tels. Donc, je pense qu'il faut faire très attention. Et moi, pour moi, ce qu'on doit avoir en commun, et c'est pourquoi on a besoin d'institutions comme la presse, comme le débat, comme la publication et aussi les comités consultatifs et les instances intermédiaires. C'est vraiment des distinctions. C'est-à-dire, il est vraiment possible que Jean-Louis Touraine dise ce qu'il veut, même s'il est député, etc., et que d'autres qui peuvent partager à tel point avec lui ne soient pas en accord avec lui sur cette généralisation.
Oui.
Et de même, moi, je ne généralise certainement pas les positions, je ne mettrai pas les positions de Sylvia Nagasinski avec n'importe qui dans le même panier. Ce serait quand
même
catastrophique.
Il ne faut pas mettre les positions dans le même panier. Voilà. Vous avez tout à fait raison. Faisons des distinctions. Mais il y a peut-être un mouvement, un processus à l'œuvre. Et là, je suis très intéressé.
Ça aussi, discutons-en.
Discutons-en.
Je ne suis pas absolument sûr, moi, qu'il y a une toile de fond catastrophiste.
Non, il n'y a peut-être pas une toile de fond. D'ailleurs, même la loi relative à la bioéthique a mis des limites. Donc, elle n'a pas ouvert la procréation au transgenre, d'où la contestation, si vous voulez. Mais c'est très intéressant, cette contestation, parce qu'elle en dit long sur un des aspects inquiétants de la modernité relevé par Hannah Arendt, que je vais vous citer très brièvement. L'homme moderne a fini par en vouloir à tout ce qui est donné, même sa propre existence, à en vouloir au fait même qu'il n'est pas son propre créateur, ni celui de l'univers. Dans ce ressentiment fondamental, il refuse de percevoir rime ni raison dans le monde donné. Toutes les lois simplement données à lui suscitent son ressentiment. Il pense ouvertement que tout est permis et croit secrètement que tout est possible. Et est-ce qu'on n'est pas, justement, dans ce chemin nihiliste, parce que le genre, c'est une manière de dire, bah oui, il n'y a pas de données. Je choisis finalement non seulement mon orientation sexuelle, mais mon être sexué. Je peux être homme ou femme, peu importe. Donc, si je suis transgenre, je suis même pas une exception, mais un pionnier de l'émancipation générale de l'être humain. Et ma question, c'est justement, est-ce qu'on peut se satisfaire de cette suppression, de cette de ce ressentiment à l'égard du donné? Est-ce qu'il ne faut pas un peu de gratitude? Et donc, est-ce qu'il ne faut pas justement s'interroger sur la nécessité pour nous de garder contact avec la nature ou avec une certaine idée de la nature?
Vous me permettrez de répondre avec ce que je pense et ce que je soutiens, Alain Finkielkraut. Moi, je viens de publier un livre qui s'appelle « L'humanisme vital ». Je fais partie d'un comité d'éthique où il y a des médecins. Le propre de notre moment, que j'appelle le moment du vivant, qui est la toile de fond réelle pour moi de ce que nous vivons, qui n'est pas un individualisme abstrait, mais plutôt des nouveaux enjeux vitaux, c'est de reconnaître nos fragilités. Nous voyons aujourd'hui sur le plan du climat, sur le plan de retour de certaines maladies, sur le plan de la misère et de la violence aussi très concrète entre les humains, sur un certain nombre de plans très concrets, nous voyons ce que moi j'appellerais carrément nos dépendances. Je suis même plus vitaliste encore qu'Hannah Arendt. Hannah Arendt pense que ce qui fait la nouveauté du la fragilité propre du bébé humain, c'est son appartenance à un monde de la parole. Et elle a raison. Mais peut-être qu'elle-même tend un peu à minimiser la fragilité vitale de ce petit être qu'il faut aussi protéger pour qu'il n'ait pas froid, pour qu'il n'ait pas faim, pour qu'il soit pris par le corps et par la société dans sa fragilité la plus intime. Donc moi, je ne suis pas du tout du côté de cette sorte de transhumanisme délirant. Pas du tout. D'artificialisme. Mais je voudrais vous souligner que le comité d'éthique, non plus. Dans les avis, le transhumanisme est notre repoussoir commun. Et cette sorte d'artificialisme. Donc voilà, prenons les gens pour ce qu'ils disent et pour ce qu'ils sont. Ce qu'il faut défendre aujourd'hui, pardonnez-moi de le revendiquer, c'est un humanisme vital que moi je revendique aussi comme vitalisme critique, c'est-à-dire au fond, le vivant, parmi lesquels il y a les vivants humains, et dans les dangers mortels, il y a les violences entre les humains.
Eh ben voilà un point sur lequel on peut se retrouver.
Oui,
en fait.
Ça me fait très plaisir.
La vitalité, ça m'intéresse énormément.
Ben, comment vous voulez.
Hannah Arendt, que vous citiez tout à l'heure, dit aussi dans La condition de l'homme moderne, je le cite dans mon tract, que tout se passe comme si l'homme souhaitant de fabriquer des êtres humains en éprouvette parce qu'il serait révolté, je cite, contre sa condition naturelle et qu'il chercherait à échanger sa vie reçue de nulle part, de la nature en fait, contre un ouvrage de ses propres mains. Voilà. Et là, elle a vraiment tout compris, et elle a compris ce que vous appelez peut-être la toile de fond. La toile de fond, c'est un rejet de la nature qui est située en face de l'homme moderne qui veut agir sur elle, la maîtriser, la dominer, etc. Et qui, à force de placer la nature comme un objet de pouvoir en face de lui, place sa propre nature, lui, charnelle, fragile, comme vous dites, aussi dans une position d'extériorité et de pouvoir, et du coup perd d'une certaine manière son existence singulière, individuelle, de vivant et de personne humaine. Et à ce propos, je pense qu'on est aussi dans le cas de la neutralisation de la différence sexuelle, qui a quand même un certain succès idéologiquement depuis les œuvres de Judith Butler. Si on regarde un petit peu de quoi il retourne, là aussi, c'est que nous ne sommes pas sexués en tant qu'êtres sociaux. C'est-à-dire que la société, toutes les sociétés, toutes les cultures, bien entendu, font quelque chose avec la différence sexuelle. Mais elle ne vient pas, en quelque sorte, elle n'est pas cette fameuse construction sociale dont on nous parle, pas du tout. Il y a fondamentalement une donnée tout à fait réelle qui tient au fait que nous sommes des vivants. Et c'est parce que nous sommes des vivants que nous avons la finalité de nous reproduire sexuellement. Et je termine, vous qui êtes un grand lecteur de Bergson. Bergson, dans un célèbre texte, étudie justement quels sont les genres réels. Et parmi les genres réels, il cite les espèces, hein, les chiens ne sont pas des chats, etc. Et la différence sexuelle, c'est-à-dire que ça, c'est un genre réel. C'est pas dans notre imaginaire qu'on a construit ça. Si bien qu'il me semble que cette fameuse toile de fond dont vous parlez, il faudrait la ramener à peut-être alors des choses très très fondamentales qui seraient une angoisse peut-être de l'homme par rapport à sa propre nature, sa propre animalité aussi, parce que il y a ça, hein, sa propre chair, sa propre animalité, au point de rêver de se refabriquer intégralement. Et puis dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, là c'est vraiment la technique moderne telle que nous avons appris à la comprendre depuis Heidegger et beaucoup d'autres, Günther Anders, etc. Et qui est que le contexte, c'est le règne de la technique où tout ce qui est, comme dit Heidegger, et doit être fabriqué, et fabriqué, peut être reproduit. Et puis d'autre part, cette technique, ça c'est ce que j'ajouterais par rapport peut-être à Heidegger, c'est que cette technique, elle fonctionne pas toute seule. C'est-à-dire que si on n'avait pas derrière le capitalisme avec le règne absolu du marché, du tout marché, si on ne voulait pas aller vers ce que Alain Supiot appelle le marché total, la technique ne s'essoufflerait pas tant que ça à produire sans arrêt des choses qui deviennent des marchandises.
Et il n'y a peut-être pas que le marché, il y a aussi cette révolte, ce ressentiment dont parle Hannah Arendt, dans le donner, on n'entend plus le don, parce qu'après tout, qu'est-ce que c'est que la thèse sur le genre, sinon un fantasme de l'auto-engendrement? Mon sexe ne m'est pas donné, mon sexe est une contrainte, et donc, et quand on explique que c'est une construction sociale ou culturelle, il y a un grand soulagement, on va déconstruire tout ça, et on va pouvoir être totalement libre. Donc, le marché est là, mais aussi une certaine idée de la liberté qui accompagne ce marché total dont vous parlez.
Oui, mais ce que je dis, moi, c'est tout simplement qu'avec Pascal Quignard, que la différence sexuelle est très coriace et qu'elle résiste absolument à la déconstruction, et elle y résiste même dans le cas des procréations artificielles où le recours au corps d'autrui, au corps sexué d'autrui est indépassable.
Un dernier mot.
Je retiens de la théorie, non pas du genre, moi c'est pas du tout une notion que j'ai, mais disons de la critique sociale, la différence sexuelle. Moi, pour moi, il y a une différence sexuelle naturelle, mais il ne faut pas nier une domination sociale entre
évidemment,
les sexes.
Évidemment, hein, évidemment.
Il faut quand même ne pas oublier de le dire.
La hiérarchie
justement
aussi.
Parce qu'il y a des femmes qu'il faut les défendre contre l'abus des hommes. Et le deuxième point, c'est évidemment là aussi que je rejoins de manière critique un petit peu cette question du marché, bien entendu. C'est la question du don, d'ailleurs elle est au centre de ma propre analyse de la bioéthique, mais c'est pas seulement le don par la nature avec un grand N qui nous est fait, c'est aussi le don entre les humains. Et d'une certaine façon, la bioéthique repose sur ce pilier qu'est le don et ne cesse de le renforcer comme les institutions qu'ils soutiennent en France. Et donc je crois, ne fragilisons pas l'une par l'autre.
D'accord.
Les institutions peuvent protéger ce que la nature nous donne. Ne les opposons pas contre les ennemis communs que nous partageons malgré tout.
Merci. Merci beaucoup Frédéric Vance. Merci beaucoup Sylvia Nagasinski. Je rappelle Sylvia Nagasinski que vous publiez dans la collection Tract Gallimard L'homme désincarné, et que vous avez publié aussi Le tiers-corps, réflexion sur le don d'organes aux éditions du Seuil. Frédéric Vorms, vous êtes l'auteur de Pour un humanisme vital, Lettres sur la vie, la mort et le moment présent, aux éditions Edith Jacob. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Aux sources du malheur français. Mes invités seront Denis Oliven et Pierre Vermeeren. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Marie Le Peintre. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.